Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. Nani Talani à ce micro vous souhaite au nom de toute l'équipe de la VOA la bienvenue à ce journal. Au menu, Bénin, 20 ans de prison pour Boko et Omeki condamnés pour complot. Mali, éboulement meurtrier dans une mine, une dizaine d'orpailleurs sont morts. États-Unis, collision dramatique au Potomac à Washington DC. 67 morts après l'accident aérien. Nous suivrons d'ailleurs le décryptage de Fabrice Combo, CEO de Combo Jet, dans nos dossiers du jour.
L'avion et l'hélicoptère n'étaient pas sur la même fréquence, ce qui a donné occasion à la collision.
Il sera également question d'une innovation au Cameroun avec un réchaud à huile recyclé pour un avenir plus propre. Échange d'otages, oui, israéliens remis au Hamas dans le cadre de la trêve. En sport, nous reviendrons sur le choix de Danny Namasso pour le Cameroun, un renfort majeur pour les Lions indomptables. On n'oublie pas le sport, mais d'abord les infos. Le groupe armé M23, qui a pris avec l'armée rwandaise le contrôle de Goma, capitale du Nord Kivu en RDC, déclare vouloir marcher sur Kinshasa aussi, a progressé hier jeudi dans l'est de la RDC, l'ONU se disant très inquiète. Le M23 et les troupes rwandaises ont progressé dans la province voisine du sud Kivu, vers la cité minière de Diabibwe, à une centaine de kilomètres de Bukavu, d'après des sources locales et humanitaires. Nous sommes très inquiets concernant la situation au sud de Kivu, qui reste très volatile, avec des informations crédibles de l'avancée rapide du M23 vers la ville de Bukavu, la capitale provinciale, a déclaré dans la soirée Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Après l'échec des négociations entre la RDC et le Rwanda, les affrontements ont fait plus de 100 morts et près de 1000 blessés, aggravant la crise humanitaire avec plus de 500 000 déplacés depuis janvier. La chanteuse nigériane Tems a annulé son concert prévu à Kigali le 22 mars en raison du soutien du Rwanda au groupe armé M23, impliqué donc dans le conflit en cours en RDC. Sur X, Tems, dont le vrai nom est Temilade Openyi, a exprimé son regret de ne pas avoir pris conscience de la situation avant de promouvoir l'événement. Tems a présenté ses excuses, affirmant qu'elle n'avait pas l'intention d'ignorer les problèmes réels et a exprimé sa solidarité avec les personnes affectées par le conflit. Au Bénin, Olivier Boko, ancien proche du président Patrice Talon, et Oswald Omeki, ex-ministre des Sports, ont été condamnés hier à 20 ans de réclusion pour avoir fomenté une tentative de coup d'État. Davantage avec Dili Diko.
Olivier Boko, homme d'affaires influent, longtemps considéré comme le bras droit du président béninois Patrice Talon, et Oswald Omeki, ex-ministre des Sports, ont été arrêtés fin septembre pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Roch Nyeri, beau-frère d'Olivier Boko, actuellement en fuite, était lui aussi poursuivi. Les trois hommes ont été condamnés jeudi à 20 ans de réclusion criminelle et à verser 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à l'État béninois, environ 95 millions de dollars, des montants inédits. Ils doivent également s'acquitter d'une amende individuelle de 4,5 milliards de francs CFA, près de 6,5 millions de dollars. Lors du procès, les accusés n'étaient représentés par aucun avocat. À leur côté se trouvaient trois autres accusés qui ont été acquittés. Le 21 janvier, à l'ouverture du procès, les avocats de la défense se sont opposés à la constitution du tribunal, composé de trois membres au lieu des cinq requis. En signe de protestation, les avocats de la défense se sont tous dessaisis du dossier. La cour a alors demandé aux accusés de trouver de nouveaux avocats pour assurer leur défense, ce que ces derniers ont refusé, jugeant le délai octroyé impossible.
Au Mali, au moins une dizaine d'orpailleurs ont été tués et de nombreux autres, majoritairement des femmes, sont portés disparus à la suite de l'éboulement d'une mine dans le sud du pays, ont indiqué les autorités hier. John Lindon nous en dit plus.
L'accident est survenu mercredi dans le village de Danga, où un éboulement a piégé un groupe d'orpailleurs à majorité composée de femmes, a rapporté sur les réseaux sociaux le gouvernement de Koulikoro. Les victimes se sont trouvées prises au piège dans une excavation submergée par une eau boueuse qui a fait des ravages. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a pu s'échapper, ajoute-t-il, sans préciser combien de personnes fouillaient le sol à ce moment-là. Le communiqué parle de plusieurs victimes. Ousmane Diakité, responsable de la direction régionale des mines, a fait état d'un bilan provisoire d'une dizaine de morts et des disparus. Des messages circulant sur les réseaux sociaux évoquent un bilan bien plus lourd. Des photos publiées par le gouvernorat et sur les réseaux sociaux montrent un vaste site à ciel ouvert, à terre retournée, ponctué d'excavations remplies d'eau boueuse. Aucun corps n'a pu être récupéré en raison des conditions dangereuses, a admis le gouvernorat. Les eaux ont englouti une pelle mécanique, mais les recherches continuent, a-t-il rapporté.
L'armée soudanaise a repris la ville stratégique d'Oum Rawaba dans l'état du Nord Kordofan aux forces paramilitaires des FSR qui la contrôlaient depuis mai 2023. Oum Rawaba, située à environ 480 km au sud-ouest de Khartoum, est un point clé sur l'autoroute reliant le Nord Kordofan au centre du pays. Cette victoire survient alors que l'armée progresse également dans la région de Khartoum Nord avec la reprise totale de Bari et de son pont reliant la capitale. La police marocaine a annoncé avoir déjoué un complot terroriste visant à attaquer des sites sécuritaires en arrêtant 4 personnes liées au groupe État islamique au Sahel. Les suspects, tous marocains, dont 3 frères âgés de 26 à 35 ans, ont été interpellés près de Casablanca. D'après les autorités, le groupe avait prévu de s'en prendre à des installations sécuritaires, un supermarché et des espaces publics fréquentés par des Marocains et des étrangers.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aucune vie n'a pu être sauvée après la collision entre un avion civil et un hélicoptère militaire mercredi soir au-dessus du fleuve Potomac, près de Washington, D.C. Le bilan s'élève à 67 morts, d'après les autorités. Le président Donald Trump a promis une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de la catastrophe. Les détails avec Eric Manirakiza.
Lors d'un point de presse, le président Donald Trump a observé une minute de silence avant de qualifier l'accident de nuit sombre et atroce, dénonçant aussi la gestion des normes de sécurité sous ses prédécesseurs démocrates. Monsieur Trump a critiqué les programmes de diversité mis en place au sein des agences fédérales, insinuant qu'il pourrait avoir affaibli les standards en matière d'aviation. Il a néanmoins reconnu qu'il était trop tôt pour établir un lien direct avec l'accident. Hier matin, les équipes de secours avaient déjà extrait plusieurs corps des eaux glacées du fleuve, marquant le passage d'une mission de sauvetage à une opération de récupération. Le ministre des Transports a estimé que la collision aurait absolument pu être évitée. Des échanges radio révèlent que la tour de contrôle avait demandé à l'hélicoptère de céder le passage à l'avion quelques instants avant l'impact. De son côté, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a précisé que l'équipage militaire était expérimenté, effectuant un vol d'entraînement et équipé de lunettes de vision nocturne. Les secours, toujours mobilisés sur place, poursuivent les opérations de récupération. Parmi les victimes, plusieurs membres de la communauté du patinage artistique américain, ainsi que des ressortissants russes, dont un couple d'anciens champions du monde. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce drame, qui constitue l'une des pires catastrophes aériennes aux États-Unis depuis plus de 2 décennies. Un accident similaire s'était produit le 13 janvier 1982 sur un pont au-dessus du Potomac, faisant 78 morts, dont 4 automobilistes.
8 otages israéliens et étrangers du Hamas ont été remis hier jeudi à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza avant d'être pris en charge par l'armée israélienne dans le cadre d'un échange avec 110 prisonniers palestiniens prévu par l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, a déclaré Sahal. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Il s'agit du troisième échange entre otages israéliens, binationaux ou étrangers et détenus palestiniens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 19 janvier. 3 civils et 4 soldats israéliens ainsi que 290 détenus palestiniens ont été libérés lors des 2 premiers échanges. La trêve prévoit que le Hamas libère 33 otages, femmes, enfants, personnes âgées, malades et blessées au cours d'une première phase de 6 semaines. Les autorités israéliennes estiment qu'il reste encore 89 otages à Gaza, dont une trentaine seraient morts. Environ 250 personnes ont été capturées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, qui a également coûté la vie à 1200 Israéliens. Une centaine d'entre eux ont été relâchés à la faveur d'une trêve en novembre 2023 et d'autres ont été retrouvés morts ou vivants lors de la vaste campagne militaire de représailles menée par Israël ces 15 derniers mois dans l'enclave palestinienne, réduite pour partie à l'état de ruine et qui a entraîné la mort de quelque 47 000 Palestiniens.
Voilà pour les nouvelles. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tournons maintenant notre attention vers le segment économique. Nous laissons la place à Claire Morin-Gibourg.
La 5e édition du Cyber Africa Forum aura lieu à Cotonou, au Bénin, les 24 et 25 juin 2025. Le forum, qui attend plus de 1000 participants, a pour but d'accélérer la transformation numérique de l'Afrique, de renforcer les partenariats publics-privés, de contrer les cybermenaces, d'exploiter les opportunités de l'intelligence artificielle ainsi que de stimuler les collaborations à travers le continent. Au Sénégal, Maktar La, le secrétaire général du ministère du Commerce, a déploré que les échanges commerciaux avec la Gambie soient en dents de scie. APA News rapporte que M. La a toutefois noté une progression des échanges entre Dakar et Banjul au cours des 5 dernières années lors de la journée d'échange de l'Union des prestataires des industriels et des commerçants du Sénégal avec leurs collègues gambiens. Le prix de l'or a atteint un nouveau record jeudi, porté par l'incertitude sur la politique économique du président américain Donald Trump et la faiblesse du dollar après un rapport décevant sur la croissance américaine. Le pic précédent était dû en grande partie aux troubles géopolitiques au Moyen-Orient et en Ukraine.
À présent, Yacouba Ouédraogo nous apporte les derniers faits marquants de l'univers sportif. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Dany Namasso va rejoindre la sélection nationale camerounaise.
Oui, la Fédération camerounaise de football a annoncé le changement de nationalité sportive de Dany Namasso, qui a joué jusque-là 48 fois pour les équipes des moins de 16 ans et moins de 17 ans de l'Angleterre. Le buteur du FC Porto a été déclaré éligible le 28 janvier à jouer désormais pour le compte de la sélection nationale senior de la Fédération camerounaise de football avec effet immédiat, déclare la FECAFOOT dans un communiqué. Dany Namasso, auteur de 3 buts en 25 matchs cette saison avec le FC Porto, pourrait être sélectionné par le coach Marc Brice lors de la prochaine fenêtre internationale en mars. Le Cameroun joue contre l'Eswatini et le Cap-Vert à l'occasion des matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026.
En Ligue française, Rennes négocie avec Habib Bey pour remplacer Sampaoli.
C'est ce qu'affirme une source proche du dossier. Habib Bey est arrivé à Rennes et il est en discussion avec le club, a indiqué cette source. L'avenir de l'Argentin José Sampaoli sur le banc du club breton, qui a repris les commandes de l'équipe il y a 2 mois et demi, s'est brusquement assombri en début de semaine après une nouvelle défaite à Monaco 3-2. L'ancien international sénégalais passé par Strasbourg et Marseille comme joueur jouit d'une réputation de coach promoteur depuis son passage au Red Star, qui l'a fait remonter en Ligue 2 en glanant le titre de meilleur entraîneur de la saison en National l'an dernier.
Mehdi Benassi a suspendu 3 mois.
L'ancien international marocain, directeur du football de l'Olympique de Marseille, a été suspendu 3 mois et le président de Lille, Olivier Letang, un mois pour leur comportement à la fin du 16e de finale de Coupe de France, mi-janvier. La fin de match entre Marseille et Lille au Vélodrome avait été très tendue autour des bancs de touche, avec l'intervention d'Olivier Letang et l'exclusion de Mehdi Benassia pour des propos véhéments contre le quatrième arbitre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours dans ce studio, pour vous présenter nos dossiers du jour. Un avion de ligne et un hélicoptère militaire sont entrés en collision au-dessus de Washington avant de s'écraser dans le Potomac. Les autorités, jugeant l'accident évitable, ne s'attendent plus à retrouver de survivants. Pour savoir les principaux facteurs pouvant expliquer cette collision entre un avion et un hélicoptère, Eric Manirakiza a joint le CEO de Combojet, Fabrice Kombo.
Déjà au départ, la proximité des aéroports militaires et des aéroports civils aux États-Unis est très prononcée. Les pistes au niveau militaire sont juste à côté des pistes civiles. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'était la visibilité. Il n'y avait pas, vu que l'armée a ses propres tours de contrôle, ils ne sont pas exactement sur la même fréquence. L'avion et l'hélicoptère n'étaient pas sur la même fréquence, ce qui a encore, au-delà de la visibilité étant faible, donné occasion à la collision.
Et pourtant, des contrôleurs aériens ont alerté l'hélicoptère de sa trajectoire et lui ont demandé de passer derrière l'avion.
Encore une fois, c'était une question de fréquence. L'hélicoptère n'était pas sur la même fréquence radio que l'avion au moment où le warning a été donné. Et nous anticipons que c'est ça qui a causé le crash, parce que l'hélicoptère n'a jamais changé de trajectoire pendant les dernières 60 secondes.
Quel protocole existe pour éviter ce type d'accident en espace aérien contrôlé?
Généralement, le TCAS, qui est un radar qui permet de déterminer la présence d'autres aéronefs autour. Le TCAS devrait avoir été activé dans l'appareil de American Airlines, qui avait d'ailleurs à son bord 64 passagers à Abbey Airport, à l'aéroport de Abbey. Donc, c'est ainsi que si le TCAS n'a pas été activé, où le pilote, pour une raison ou une autre, n'a pas vu l'hélicoptère. Il y avait aussi, bon, le fait de visibilité étant faible, le pilote n'a pas vu l'hélicoptère, étant un hélicoptère militaire. Il n'avait pas de phare, sinon le flash de son aile arrière, qui n'était pas suffisant pour que le pilote puisse détecter l'aéronef. Donc, ils étaient laissés à leurs instruments et à la visibilité. Donc, visibilité faible, et les instruments, il n'y a pas encore de réponse à pourquoi il n'a pas vu sur son TCAS la présence d'un hélicoptère.
Est-ce un accident qui pouvait être évité, selon vous?
Oui, si les pilotes étaient sur la même fréquence, il n'y aurait pas eu d'accident. Il n'y a pas de raison visible de penser que les machines ou il y avait un problème technique. Donc, c'est un problème de navigation, donc évitable.
Comment fonctionnent normalement les échanges entre la tour de contrôle et les pilotes en cas de risque et de collision?
Ils sont sur une fréquence précise. Tous les appareils sont sur la même fréquence. Et malheureusement, les fréquences militaires sont différentes. Donc, le protocole, c'est la radio VH hein, qui est utilisée. Et dans le cas de figure, ils ont essayé de communiquer et à l'hélicoptère et à l'appareil sur la même fréquence.
Fabrice Kombo, le CEO de Combojet, joint au Congo, mais résident au Colorado, ici aux États-Unis. Corneille Nangaa, le leader du M23, mouvement rebelle qui avance dans l'est de la République démocratique du Congo, après avoir pris le contrôle de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, a annoncé que ses combattants y resteront quelque temps avant d'envisager la poursuite de la marche vers Kinshasa. Il a tenu sa toute première conférence de presse à Goma, 4 jours après que ces hommes en ont pris le contrôle. Eddy Issango a appelé par téléphone Fiston Issemwani, qui était présent à la rencontre avec la presse.
Pour la toute première sortie médiatique de Corné Nanga, coordonnateur de HC en 23, il a été question d'abord d'appeler toute la population calme de vaquer librement aux occupations différentes. L'un 23 a rassuré que l'électricité sera rétablie à l'immédiat, donc à partir de demain, il y aura déjà l'électricité ainsi que de l'eau potable qui va couler au robinet. En tout cas, c'est une assurance que Corné Nanga a donnée à toute la population. Ce matin, il y a eu plus de 200 éléments des FRDC qui ont été bien sûr embarqués dans des fusseaux et envoyés dans un centre où ils vont subir une formation militaire. Ça sera une mise à jour. Ça sera une formation militaire professionnelle selon les autorités militaires. Bien 23, et ces militaires ont accepté bien sûr d'adhérer au mouvement d'IR 23 pour continuer avec ce qu'ils appellent la libération de la République démocratique du Congo. Corné Nanga a rassuré qu'il va rester à Goma pour étudier la stratégie dans quelle mesure il va arriver à Kinshasa. Sous peu en tout cas, pour mettre fin à ce qui se passe au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et aussi, il faut retenir quand même que le M23 a bien sûr appelé les déplacés de guerre de commencer déjà à regagner leur milieu naturel.
Qu'a dit Corné Nanga au sujet du mouvement des troupes de M23 annoncé dans le sud Kivu qui s'avancerait vers Bukavu?
En tout cas, sur cette question, il n'a pas eu à se prononcer à long et large là-dessus, mais il a rassuré que toute l'Est de la République démocratique du Congo sera en tout cas sous contrôle d'IAM 23 dans le jour qui vient, puisque Corné Nanga et son mouvement, bien sûr, avec tous ses collaborateurs, sont vraiment tous déterminés à libérer toute l'étendue de la République démocratique du Congo afin de mettre fin à ce qu'il qualifie de l'injustice qui règne au gouvernement de Kinshasa et de rétablir la paix partout. Il veut que tout le peuple vive en paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo sans bien sûr divergence aucune.
Toi, tu es à Goma, mais aujourd'hui, quelle est la situation dans cette ville-là?
Aujourd'hui, la situation est vraiment calme parce que pendant que nous faisions la tournée dans la ville, on a vu des marchés qui ont repris déjà petit à petit. On a vu des transports en commun. Il y a des mouvements de population dans toute la ville. Les gens circulent, les gens commencent à reprendre petit à petit leurs activités, en tout cas. Et on a vu surtout le service de la Croix-Rouge en train d'évacuer tout le cadavre qui traînait encore dans des rues et des avenues de la capitale, la province Nord Kivu, à la grande satisfaction de la population, puisque ces corps constituaient déjà un danger en ce qui concerne l'hygiène de la population. Et donc, pour l'instant, là, il n'y a pas de coup de feu dans la ville, tout est calme et la vie reprend petit à petit dans la capitale de la province Nord Kivu.
Merci beaucoup, Fiston Issemwani, depuis Goma.
Merci.
Fiston Issemwani, joint à Goma, dans le Nord Kivu.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
L'Organisation mondiale de la santé rapporte que l'endométriose touche 190 millions de femmes en âge de procréer dans le monde. Toutefois, la prise de conscience reste faible en Afrique. Une association nigériane à but non lucratif mène une campagne visant à sensibiliser le public et à aider les femmes à faire face à cette affection douloureuse. C'est un reportage de Timothy Oubiezou depuis Abuja. Le récit est de Michel Joseph.
Il y a 20 ans, Sharon Nkechi Adu a connu son premier cycle menstruel à l'âge de 15 ans. Depuis, chaque mois, lorsque ses règles arrivent, la douleur est si forte qu'elle doit être hospitalisée.
Ma mère n'a pas pris la chose au sérieux, alors j'ai continué à la gérer jusqu'à l'université. Sur le plan émotionnel, c'est toujours autre chose parce que parfois, vous arrivez à un point où vous vous dites « Pourquoi moi ?»
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'endométriose touche 10% des femmes et des jeunes filles en âge de procréer dans le monde. Elle provoque de fortes douleurs dans l'abdomen et le bassin et peut augmenter les risques d'infertilité jusqu'à 50% chez les femmes. Malgré cette menace, le manque de données précises sur sa prévalence en Afrique subsaharienne a conduit à un sous-diagnostic et à un faible taux de dépistage par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Le docteur Latif Akinola, consultant en obstétrique et gynécologie.
We have about 30 to 40%
Nous avons environ 30 à 40% de nos patientes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire des femmes en âge de procréer. On pense également que 11% de nos élèves ont une endométriose non diagnostiquée. La stigmatisation est due au fait que cette maladie est très peu connue, que le diagnostic par un spécialiste est rare et que la procédure de dépistage est coûteuse et difficilement accessible dans la plupart des régions du Nigeria.
De nombreuses personnes ne considère pas non plus l'endométriose comme un problème grave. C'est là qu'interviennent Olivia Nwankudu et son association à but non lucratif Endo Survivors International Foundation. Elle a lancé son association en 2017, des années après avoir découvert sa propre maladie, afin de sensibiliser le public et d'augmenter le nombre de diagnostics.
Lorsqu'une jeune fille entre dans le cabinet d'un médecin en souffrant de violentes crampes menstruelles, l'endométriose n'est généralement pas la première chose à laquelle il pense. Nous organisons également des formations pour les médecins de premier recours afin qu'ils puissent augmenter l'indice de suspicion de l'endométriose.
La Fondation a déjà aidé plus de 2000 patientes atteintes d'endométriose à accéder à des soins et à sensibiliser des milliers d'écolières. Elle organise également des rencontres de soutien périodiques pour aider les femmes qui souffrent émotionnellement. Selon Mme Nwankudu, sans un soutien significatif du gouvernement et du secteur privé, il sera difficile de sensibiliser le public à l'endométriose et beaucoup d'autres femmes risquent de voir leur situation empirer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Pour terminer, un réchaud alimenté par de l'huile de véhicule recyclé offre aux ménages une option de cuisson plus propre et plus abordable. Cette innovation, conçue par un ingénieur local, contribue aussi à réduire la pollution de l'environnement et les risques sanitaires associés aux méthodes traditionnelles de cuisson au charbon. Récit Yakuba Ouedraogo.
Depuis plusieurs mois, Suzanne Nouboussier, une ménagère de Douala, a troqué son fourneau à charbon contre un fourneau à huile recyclé. L'appareil, conçu par un ingénieur camerounais, est alimenté par de l'huile de vidange et de l'énergie solaire.
C'est-à-dire, à n'importe quel prix, tu peux l'avoir et pas loin. Je suis vraiment satisfait, comme je vous l'ai dit, et le gaz est vraiment rapide. Nous, les femmes, nous aimons la rapidité et l'efficacité dans la cuisine.
L'idée de créer cet outil de cuisson rechargeable à partir d'huile usagée est d'Éric Tanque, un ingénieur en énergie vivant à Douala, ici dans son atelier. En 2022, son mécanicien lui a expliqué les difficultés qu'il rencontrait pour se débarrasser des huiles usagées. Après quelques recherches, Tanque découvre que cette huile peut être utilisée comme carburant. Il a ensuite passé un an à mettre au point une formule de recyclage de l'huile et à concevoir une cuisinière capable de l'utiliser dans un environnement de cuisine sûr.
On a beaucoup de femmes qui ont des problèmes pulmonaires liés à l'inhalation de monoxyde et dioxyde de carbone, qui sont des gaz dégagés par la combustion du bois. Et c'est un réel problème de santé publique.
Tanque ne nous dévoilera pas le processus par lequel il transforme l'huile usagée en carburant, mais il affirme traiter environ 5 tonnes d'huile par mois, contribuant ainsi à protéger l'environnement.
Il y avait également ce problème de lutter efficacement contre la pollution des sols, parce que ces huiles sont déversées partout, personne n'en veut, personne ne les valorise, et il n'y a qu'une faible quantité de ces huiles qui sont généralement reprises et recyclées.
Le réchaud qu'il fabrique est vendu à 70 000 francs CFA. Tanque explique que 2 litres d'huile coûtant 1 500 francs CFA permettent d'obtenir le même temps de cuisson qu'une bouteille de gaz domestique de 6 kg coûtant 6 500 francs CFA. En plus de la protection de l'environnement, le recyclage de l'huile usagée présente d'autres avantages économiques, selon Guy Merlin Tendjou Wandie, expert en développement durable.
Les huiles usagées, c'est des déchets liquides dangereux et qui ne sont pas bons pour l'humain.
et les êtres vivants. Donc il est très important que ces déchets liquides ne se retrouvent pas dans la nature, mais qu'ils soient récupérés par des experts, des spécialistes et des professionnels du milieu pour les recycler, les traiter avant de les remettre sur le marché. Également aussi, c'est une très bonne chose que ces huiliers soient églés parce que cela participe à l'économie circulaire, ce qui fait que ça crée des emplois.
Pour les personnes comme Nouboussier, le fait de cuisiner avec moins de fumée que le fourneau à charbon auquel elle était habituée est un changement bienvenu qui lui permet de préparer ses repas de manière plus sûre et plus propre.
C'est la fin de ce journal présenté par Nani Tetelani avec à la mise en onde Georges Léonard Sagno et Kelvin Fowler à la technique. Merci pour votre attention. Au revoir et excellente matinée.